Les voiles de Saint-Tropez, c'est tous les jours à 12h et 19h sur Energivar dans le Carré des Voiles. Toutes les coulisses du plus beau rassemblement de bateaux au monde au micro de Rémi Pelletier. Avec Triba, concepteur, fabricant et installateur de toutes menuiseries et stores, les Cyclades à Gassin, Outlet Store by La Clé des Marques, les plus grandes marques à moins 50% avenue Paul Roussel à Saint-Tropez et la sellerie Eke, réparation et conception de sellerie bateaux, auto et moto, zone d'activité rue Condorcet à Cogolin.
Bonjour et bienvenue dans le village des voiles de Saint-Tropez, toujours à l'occasion des voiles de Saint-Tropez 2021. On va commencer par l'un des partenaires officiels des voiles de Saint-Tropez qui est la marque North Sails, représentée ici par Marissa Selfa qui est donc la CEO en anglais, la directrice générale qui dirige donc cette partie vêtements de l'entreprise North Sails Apparel. Avec elle, Denis Delgado qui va nous servir un peu d'interprète dans cette émission, qui s'occupe de la performance au niveau international pour North Sails. Également des marins qui ont fait des tours du monde. Et on va commencer par Cécile Pujol qui également a travaillé avec plein de grands marins. Et sur le dernier Vendée Globe, on reçoit également Clément Giraud qui vient ici au voile de Saint-Tropez pour naviguer, mais qui a également fait le dernier Vendée Globe sur le bateau Compagnie du Lit Giliti, qui nous dira également les liens entre la mer, enfin le Vendée Globe, les voiles de Saint-Tropez, etc. Et puis une star mondiale de la course au large, Bertrand de Broc, connu dans le monde entier pour s'être recousu lui-même sa langue tout seul comme un grand dans les années 90, 90, en 93, Bertrand de Broc qui navigue sur Olympia, notamment avec Cécile Pujol. Justement, on démarre juste avec vous, Bertrand. Les conditions qu'on a rencontrées, que vous avez rencontrées sur l'eau dans le golfe de Saint-Tropez aujourd'hui, c'était plutôt sympa.
Bah, c'était surtout agité, oui. Guillaume, le skipper du bateau, a pris plutôt la décision de ne pas courir, et ainsi que les trois autres bateaux un peu similaires. Et puis du coup, j'ai trouvé un gros semi-rigide pour aller voir les bateaux naviguer. Et on a fini la journée par remorquer un bateau. Ouais. Donc ça a été une heure de remorquage pour ramener un bateau au port.
Alors, il faut juste expliquer à nos auditeurs, c'est que quand il y a des conditions musclées, les voiliers classiques de tradition peuvent être fragiles dans ces conditions-là.
Oui, moi j'ai pas une très grande expérience des bateaux classiques, mais j'adore naviguer sur ces bateaux. Et c'est vrai que c'est un peu au skipper de donner le ton sur le bateau, de doser le vent, la taille du bateau, l'équipage. Et puis voilà, donc on a été voir les bateaux naviguer dans des conditions de 25 à 35 nœuds quand même. On a noté des pratiquement des vents de 35 nœuds. Il faut des équipages quand même solides et des skippers qui connaissent bien leur bateau, parce que c'est souvent assez compliqué, surtout qu'il y a beaucoup d'invités sur les bateaux, il faut être quand même très très vigilant.
Alors Cécile Pujol, qui est votre voisine et également sur le même bateau que vous, Olympiane, elle connaît bien la Méditerranée, n'est-ce pas Cécile?
Ben, je commence à connaître un petit peu les voiles de Saint-Tropez.
Alors deux mots sur Olympiane, il faut juste expliquer à nos auditeurs, c'est un bateau qui vient des États-Unis a priori, d'une autre époque, mais l'histoire du yachting est vraiment là.
Alors Olympian, c'est ce qu'on appelle un classe P, donc c'est une jauge de bateau qui effectivement naviguait sur les grands lacs aux États-Unis. Là, il y a trois classes P sur la régate des voiles de Saint-Tropez. Il y a Ships, Corinthian et Olympian, et donc c'est la même jauge. Donc c'est des bateaux qui ont été dessinés par des architectes différents, mais qui ont des temps de course qui sont vraiment très similaires, et du coup c'est très très chouette en classique, parce qu'on a la chance de pouvoir naviguer ce qu'on appelle en temps réel, c'est-à-dire que le premier qui coupe la ligne, c'est vraiment le premier au classement. Là, les classes P, ils naviguent dans les mêmes conditions, donc ça, c'est vraiment très très chouette.
Alors Marissa Selfa, vous dirigez donc North Sails Apparel, donc c'est la partie vêtements de North Sails. Il faut juste rappeler pour nos auditeurs que North Sails, c'est des voiles au départ chez North Sails, c'est ça?
Oui, c'est ça. Je m'excuse pour parler anglais.
Mais il n'y a aucun problème. Denis Delgado est là.
Oui.
Oui, oui, l'histoire, c'est Monsieur North, en fait, c'est l'histoire un petit peu de plein d'entreprises. C'est un monsieur qui est ingénieur aérodynamique et puis qui est passionné de bateaux et qui commence à dessiner des voiles pour les bateaux. Et aujourd'hui, on peut dire que, enfin, j'aime bien cette phrase qui dit que North Sails aujourd'hui, c'est la voilerie de tous les dunkers de la Coupe de l'Amérique, mais aussi de tous les perdants. Ce qui veut dire que ça fait quand même pas mal de bateaux et que tous les bateaux sont occupés avec du North Sails. Donc la marque et la performance et le développement, la technicité de ces voiles est quand même un cran très large et au-dessus de tout ce qu'on peut trouver dans le monde.
Et donc la logique, c'était de passer de la voile aux vêtements pour habiller les marins?
Ça, c'est des logiques de, historiques où en fait il y a des choses naturellement qui se font au travers de l'histoire, et d'une marque en fait on en fait une icône, et d'une icône on passe à des vêtements, et avec ces vêtements on trouve des lieux magiques, des lieux aussi iconiques, et donc on fait la relation des icônes, et on a une icône qui s'appelle Saint-Tropez qui se marie avec une icône qui s'appelle Norcelles, on en tire une capsule, et puis voilà, ça crée plein de bonheur en fait pour les gens qui aiment porter. En fait, c'est l'expression aussi d'un style de vie que l'on peut porter sur soi. Voilà.
So Marissa, what's your opinion about Voile de Saint-Tropez? Your feeling when you arrive in the harbor to viewing all that whole boat, new boats, it's unique.
Donc Saint-Tropez, c'est un peu notre maison aujourd'hui, et c'est la parfaite combinaison en fait de l'univers, des bateaux, des gens passionnés, mais aussi de la découverte de plein de gens qui viennent se promener pour découvrir ces bateaux. Et c'est l'empreinte en fait, Norcelles c'est l'océan, et donc il y a une empreinte bleu océan en fait de la couleur de la marque sur ben voilà, sur ce que nous sommes tous.
You have an association, we have a link with Coral Gardeners. Coral Gardeners is He's a guy from Tahiti.
Oui, nous sommes donc associés à Coral Gardener, et qui aujourd'hui, le coral est un élément vital de survie de nos océans, et il est de notre responsabilité de s'attacher à des actions qui sont utiles, directes et efficaces. Donc chaque fois qu'on achète chez nous quelques produits pour un montant de 200 €, à ce moment-là on adopte un coral, comme des gens ont pu repeupler des forêts ou reforester. Nous essayons de recoraliser les récifs, et nous participons à cet effort, et voilà. Donc il y a une nurserie corallienne, et vous pouvez avoir votre bout de corail à l'intérieur.
So Marissa, the business model of Norcelles is not only fashion, is also environment.
En fait, nous ne pouvons pas continuer à avoir un développement même économique sur le vêtement sans en prendre une certaine responsabilité, et effectivement avoir une démarche responsable.
America's Cup, one of the event of Norcelles, the last America's Cup.
Yes, that was the last collection.
Nous étions donc partenaires de la dernière Coupe de l'Amérique avec Prada, et nous avons développé 3 collections et 3 capsules au fur et à mesure des saisons et de l'avancement de la compétition, et puis nous verrons pour la prochaine.
Clément Giraud, on va changer un tout petit peu de sujet, on va revenir sur les aventuriers, les marins qui font tour du monde. Vous venez de faire un Vendée Globe, oui. Comme Bertrand Debrun, qu'on a fait plusieurs. Vous connaissiez déjà Bertrand et vous?
On a croisé sur les pontons.
L'expérience de Bertrand, elle vous a marqué un petit peu quand on se souvient dans les années 90 qu'il lui est arrivé, se recoudre la langue, enfin c'est des petits détails mais qui ont marqué pas mal de gens.
Dans les années 90, j'étais en train de me mettre du corail dans les pieds, dans le dos à force de surfer aux Antilles, donc non, je pense que j'étais très loin du Vendée Globe à ce moment-là.
Et vous êtes en fait, vous venez du surf?
Je viens des tropiques et du surf.
Alors le Vendée Globe pour vous, ça a été une expérience, j'imagine, unique. Vous avez gardé quoi comme souvenir?
La sensation que la Terre est pas si grande finalement, de m'être trouvé un petit peu, certainement.
Alors quand vous voyez par exemple ce qui est arrivé à Kevin Escoffier, tout ce qu'il y a eu comme événement majeur dans ce Vendée Globe, les regroupements, les bateaux qui sont partis très devant, et puis les regroupements qui ont lieu, etc. Donc en fait c'est un Vendée Globe qui était assez surprenant.
Alors moi j'étais parti pour effectivement vivre une aventure. Bon, l'aventure d'une vie, hein, c'est un aboutissement. Moi le large c'est quelque chose qui me tient à cœur depuis des années, mais quand on a la chance de pouvoir naviguer comme ici au voile ou faire des circuits toute l'année en tant qu'équipier sur les bateaux, ben finalement monter un projet course au large c'est pas évident. C'est énormément de temps, énormément de concessions familiales et autres. Et là il m'a été donné la chance de pouvoir monter et d'aller au bout de ce type de projet. Ce Vendée Globe a été juste exceptionnel parce que je partais pour l'aventure et en fait je me suis aperçu pendant la course, que j'étais plus compétiteur que je ne le pensais en fait. Parce que tu lâches rien, même d'abattre et perdre 2000 en latéral, ça te met les glandes parce que tu les as grattés ces 2000. Donc étonnamment, même si ça reste une aventure, on fait de la course tout du long.
Et donc là, vous êtes parti pour essayer de repartir sur le prochain, 2024, le prochain Vendée Globe.
Ça serait mon souhait, ouais. Mais alors, la chance qu'on a avec l'IMOCA qui se développe énormément, on voit bien l'essor que prend le Vendée Globe depuis la dernière édition. Je pense qu'elle a été très très marquante parce que c'était vraiment une grande régate interplanétaire pour le coup. Et on a la chance d'avoir, à partir de maintenant, une douzaine de courses pour aller jusqu'au Vendée Globe. Et elles sont, je dirais pas aussi passionnantes, mais en tout cas, elles me font vibrer et j'ai vraiment envie d'y être.
Alors là, vous naviguez pendant les voiles de Saint-Tropez, il faut le rappeler, sur le bateau Styrène, notamment avec Sidney Gavinier, qu'on avait reçu hier.
C'était une rencontre, oui, c'est une rencontre avec un grand, grand monsieur de la voile. Ouais.
Alors Cécile Pujol, juste deux mots sur le Vendée Globe, parce que l'air de rien, vous connaissez un petit peu, et vous avez été un peu un coach, on va dire, d'un skipper, en l'occurrence une femme, Isabelle Yoshke. Qu'est-ce que vous lui avez apporté? Parce que ça, c'est important, vous étiez à terre, mais qu'est-ce qui s'est passé avant, pendant et éventuellement après le Vendée Globe?
Alors déjà, je pense qu'Isabelle, elle n'a pas besoin de coach pour aller au bout de son aventure. Après, il se trouve que c'est une très bonne amie avec qui on a passé beaucoup de bons moments sur l'eau aussi. Et donc voilà, je crois qu'elle était contente que je puisse faire partie de l'équipe sur les dernières semaines de préparation et pouvoir l'épauler autant dans des choix techniques, les derniers petits choix techniques, mais aussi voilà, être juste là et être présente. Et puis après, c'est vrai que ben, la course a été assez incroyable. Elle a fait un parcours dans le sud qui a été absolument spectaculaire. Après, personne n'avait de doute, je pense, sur ses compétences de marin, mais là vraiment elle a pu vraiment les mettre en avant. Et puis après, ben, y a eu malheureusement la casse au début, une première casse qui fait que sportivement la course s'arrête, mais par contre l'aventure continue. Et puis après, dans une très grosse dépression qu'elle a subie juste après le Cap Horn, ben, là il y a eu vraiment un problème plus de sécurité, voire même de survie pour elle. Et donc là, il faut faire un peu l'équilibriste et arriver à trouver les mots à certains moments pour la rassurer et puis à certains moments pour la préparer au pire. Et donc voilà, c'était un sacré jeu d'équilibriste. Je crois que ça a été précieux pour elle et pour moi, ça a été une belle aventure. Donc tout le monde en sort gagnant.
On va dire un petit mot juste pour terminer avec Bertrand Debrot, qui est un peu le sage, hein, le gourou de ce plateau. Il a fait 450 Vendée Globe, non?
Non, 4.
4, ça suffit. Déjà, juste un mot sur les voiles de Saint-Tropez. Ça reste pour vous un truc génial?
Bah, c'est fantastique. Les bateaux sont fantastiques, bonne ambiance. C'est vrai que naviguer sur des classiques aussi beaux et tout le travail que ça demande d'amener un bateau ici et tout le travail vraiment technique que ça demande, c'est, je dirais que c'est tout ça, ça s'équilibre. Il y en a pour tous les goûts et... Voilà, c'est ça qui est merveilleux.
Et merci en tout cas à tous d'être venus nous rejoindre sur Energivar, Clément Giraud, Denis, Marissa, Cécile et Bertrand. Et on se retrouve très vite pour la suite du Carré des Voiles sur Energivar, toujours pour les voiles de Saint-Tropez 2021. Merci à toutes et tous.
Le Carré des Voiles, le rendez-vous quotidien des voiles de Saint-Tropez, au micro de Rémi Pelletier sur Energivar, avec Triba, Menuiserie et Store, les Cyclades à Gassin, Outlet Store by La Clé des Marques, avenue Paul Roussel à Saint-Tropez, et la sellerie Eke, sellerie bateau automoto, zone d'activité rue Condorcet à Cogolin.